Bonjour à tous, 16h30, 21h, c'est Radio Shalom. Toute l'équipe vous souhaite la bienvenue.
Le Centre d'Art et de Culture et le FSJU, c'est aussi le Festival de Cinéma Diasporama et le Festival Jazz & Klezmer. Toute notre programmation est sur le site culture-juive.fr.
16h30, 17h, Marc et Maggie sur Radio Shalom.
Bonjour, bonjour, c'est Marc et Maggie, mais c'est Maggie sans Marc aujourd'hui encore une fois. Vous êtes sur Radio Shalom dans C'était pas prévu au programme. Bonjour Arnaud, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, c'est une émission un peu plus sérieuse que d'habitude et ça me tenait à cœur de le faire. Nous recevons aujourd'hui deux jeunes femmes, Victoria et Sophie. Bonjour Victoria, bonjour Sophie. J'espère que vous allez bien toutes les deux.
Bonjour.
Et elles sont là pour nous parler un peu de tout ce qui se passe en fait en ce moment, tous ces événements. Et elles sont surtout là pour nous raconter la création d'un comité qui est très très actif en ce moment, et nous donner beaucoup de conseils bienveillants, surtout de conseils pour les mamans, des conseils pour les parents, pour les enfants, pour les jeunes, les manières de se comporter, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. C'est très très important aujourd'hui au vu des événements. Donc je vais commencer juste par vous demander déjà qui êtes-vous et l'une et l'autre. On commence par laquelle ? Sophie ? Allez Sophie, bonjour.
Eh bien bonjour, merci déjà de m'accueillir ici. Alors je vais faire bref,
oui.
Je suis consultante de métier et membre du collectif 7 octobre.
D'accord. Et Victoria ?
Victoria, donc moi je suis française, membre de la communauté juive. Je suis chef d'entreprise et je suis aussi maman de 3 enfants. Et on expliquera comment tout ça a conditionné, on va dire, des actions.
D'accord. Alors, mais est-ce qu'avant tous ces événements du 7 octobre, vous étiez militante l'une et l'autre ?
Pas du tout.
Ah, pas du tout, non.
Sensible à des sujets, bien entendu.
Ouais.
Militante et dans l'action, non.
D'accord. Ok. Donc déjà, c'est quelque chose d'important aussi pour vous. C'est une vraie étape, en réalité, dans une vie de femme, je trouve, de prendre une décision telle que celle-ci. Alors moi, je voudrais savoir comment, déjà, avant de parler de tout ça, comment vous avez vécu ce week-end horrible du 7 et 8 octobre en tant que Française juive ? Et surtout, toi Victoria, après tu nous diras en tant que maman.
Oui, alors effectivement, moi je l'ai vécu déjà dès le 7 octobre, parce que l'écho a fait qu'on s'est connecté aux news. La sidération évidemment, le choc, je pense que tous les mots ont été déjà donnés par tout le monde. Un traumatisme des images qui continue d'ailleurs, je trouve que même dans la durée qui continue, puis un choc des nombres qu'on voyait s'agrandir de jour en jour. Donc c'est vrai que le week-end du 7 et 8 octobre, c'était plutôt un week-end de gueule de bois. On avait ce sentiment le lendemain, quand on a dû aller au boulot et reprendre notre vie, amener les enfants à l'école, on se demandait comment on allait le faire encore le dimanche soir. Et puis évidemment, en tant que mère, la sécurité de nos enfants, de notre communauté, voilà, dès le lendemain, il fallait les amener à l'école. Et donc ça posait déjà ces questions-là sur est-ce que oui ou non, tout ça allait arriver jusqu'ici, en France.
Ouais, et vous, Sophie ?
Pareil. Ce que je peux dire, c'est que j'étais en état de choc, au point où vraiment j'ai vu que ça m'impactait d'un point de vue cognitif, d'un point de vue évidemment émotionnel. Dans ma vie quotidienne, j'étais bouleversée et forcément, ça faisait beaucoup écho à l'histoire tragique de mes grands-parents, puisque étant ashkénaze, j'ai perdu les 3/4 de ma famille dans la Shoah. Donc j'avais l'impression que ça se reproduisait à nouveau, quoi.
C'est vrai que c'est par rapport à la Shoah, ça a été un choc même pour les non ashkénazes en réalité, parce que en fait tout le monde se disait ça n'arrivera plus jamais. Ce fameux never again qui d'un coup a perdu un peu de son sens. On a l'impression que c'est vrai, c'est compliqué. Je suis émue parce que en fait ce sont deux jeunes femmes. Dommage qu'il n'y a pas d'image et c'est un peu volontaire aussi, mais de voir comme ça deux jeunes femmes qui prennent la parole, qui sont actives et qui seront certainement des leaders de demain dans la communauté juive, parce qu'on ne peut pas prendre en main et en charge des actions comme vous faites et comme vous allez faire certainement pendant de longs mois, à mon avis, et ne pas devenir des leaders plus tard. Bon, ça, c'était ma petite perle à moi par-dessus. Alors, pourquoi on se parle aujourd'hui ? Pourquoi vous êtes venues aujourd'hui toutes les deux ? Alors, on va commencer par Sophie et puis après, on vient sur Victoria. Pourquoi on se parle aujourd'hui, Sophie ?
Alors, je viens important. Très humblement déjà, hein, mais c'est vrai que donc, je fais partie de ce collectif, le collectif du 7 octobre, et je pense que c'est important qu'on gagne en visibilité. Alors, on a déjà été pas mal dans les médias ces derniers jours. Je pense qu'on peut encore travailler là-dessus en termes de visibilité. Et pourquoi on veut être vu et entendu de tous, c'est qu'on cherche à mettre en lumière en fait ces otages qui malheureusement sont encore dans les mains du Hamas. Et on milite pour leur retour, on veut humaniser leurs visages, leurs histoires, leurs projets et faire en sorte que voilà, ça soit le combat de tous et pas que des Juifs.
Oui. Et vous, Victoria ?
Alors moi, c'est un peu différent, même si on s'est rencontrés, Sophie et moi, d'ailleurs, dans l'action, parce qu'on ne se connaissait pas il y a 10 jours. Hein. On s'est connus au sein du collectif par des actions
communes,
dont Sophie pourra parler. Mais effectivement, il n'y a pas d'ego dans la démarche. L'objectif, en tout cas pour moi, c'était de venir comme Madame Tout-le-Monde, sans une légitimité forcément de représentante d'associations, d'intellectuels ou de journalistes. C'est de se dire que malgré une vie très occupée de maman, une vie professionnelle, on ne pouvait pas rester les bras croisés. Donc comment on devient militante, même quand on pense qu'on n'a pas le temps ? Même quand on pense qu'on ne peut rien faire, comment justement rentrer dans cette démarche de mener des actions, de rejoindre des groupes de travail et d'être actif et ne plus être passif en fait face à ça. Parce que c'est aussi une solution de facilité, on en reviendra je pense au cours de l'émission. Mais voilà, donc moi je représente un petit peu la personne que tout le monde peut être si elle est sensible évidemment à ce qui se passe en ce moment.
Et ça vous fait du bien ?
Et ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait beaucoup de bien parce que j'ai cette impression d'être utile et une impression du coup pas du tout égoïste, mais de mettre. On a tous deux bras, deux jambes et un cerveau, et on peut tous à notre échelle faire beaucoup de choses. On y reviendra, mais il y a énormément d'initiatives qui peuvent être prises au-delà uniquement de faire circuler de l'information, et on y reviendra, je pense.
Alors, que peut-on faire d'ici, en fait, de la France pour Israël, mais pour nous aussi, en France, en tant que Français ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Sans rentrer trop dans le détail, mais qu'est-ce qu'on peut faire et quelles sont les actions, en fait
Au début, je pense que là, on a tous vécu, il y avait un côté un peu tout azimut, hein, on était tous des frelons, on recevait des sollicitations permanentes des associations, des collègues, des cagnottes. Et en fait, heureusement d'ailleurs, il y a eu un besoin, une envie de structurer les choses. Et ça, c'est hyper important de rationaliser aussi les actions, de rationaliser les efforts. Dans mon cas, et au-delà des dons qu'on peut faire, et je le rappelle, les dons sont importants, et on y reviendra, il y a aussi une action militante, il y a un engagement qui peuvent passer par des actions très concrètes. Sophie, évidemment, va présenter tout ce que le collectif du 7 octobre fait. Et puis, dans mon cas, c'est aussi, au-delà du collectif, des actions autour de la sécurisation de la communauté. Comment on sécurise nos lieux de culte, comment on sécurise nos écoles, la question de la sécurité de la communauté juive française. Parce qu'on voit que le conflit s'exporte ou s'emporte.
Malheureusement, mais on s'y attendait.
Ça,
hein.
Voilà, et ça a des conséquences très concrètes sur notre vie au quotidien. Et puis, au-delà de ça, évidemment, et à travers le 7 octobre, c'est le combat pour la libération des otages. Parce que finalement, c'est un des seuls messages apolitiques qui juste nous demande de venir avec nos valeurs humaines.
Tout à fait.
Voilà, presque évident de bon sens. Et donc, voilà, toute l'action que Sophie va pouvoir décrire pour la libération des otages.
D'accord. Alors, Sophie, à votre tour, on vous écoute. Là, c'est la partie importante.
Tout à fait. Ouais. Alors déjà, je peux commencer par dire que voilà, nous, on a créé ce site, le collectif 7 octobre. On est aussi présents sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter.
Donc vous pouvez les suivre. Alors allez-y, suivez-les, parce que plus vous serez nombreux, et mieux ce sera.
Pour amplifier le message.
Exactement, le message passera. Et surtout, partagez un maximum tout ce qu'elle balance sur les réseaux sociaux, parce que c'est très intéressant. Et surtout, plus on est nombreux à partager, plus les informations arrivent. Et on a certainement envie de toucher aussi des personnes hors communauté juive. Pense qu'avec ce comité, c'est aussi l'objectif.
Tout à fait. En fait, on met en place des moyens open source, en fait, puisque on tient un jour au quotidien le fichier des otages, donc les visuels kidnapped que vous avez dû voir un petit peu partout dans le monde, puisque c'est une initiative qui a été lancée à New York et en Israël. Et donc, avec validation évidemment de, des familles des otages.
Ouais.
On le tient un jour, on alimente ce document. On a aussi des pages dédiées sur notre site pour chaque otage qu'on, du coup, on alimente avec un vrai travail de fond, de veille pour documenter la vie de ces personnes pour pouvoir faciliter le travail, le travail d'identification qui est absolument nécessaire. Et pour, afin de sortir, évidemment, de, vous l'aurez compris, des statistiques. Et donc, effectivement, d'un point de vue individuel, je pense qu'il y a des actions qui peuvent être menées à son échelle, à sa propre échelle. Ces ressources, elles sont disponibles à tous. Donc, vous êtes les bienvenus pour vous en saisir. Mmh. Au-delà de ça, on a aussi des actions un peu coup de poing sur le terrain, des collages qu'on a pu faire avec d'autres organismes. J'ai en tête l'UEJF, le FSJU, HOMER Atsahir, Moadone, etc.
Les EI aussi.
Exactement, les EI. Mmh. Navré, j'essaye de tous les citer.
Vous savez pourquoi je les cite, Sophie, parce que c'est vrai que c'est important de connaître, parce que les parents envoient beaucoup leurs jeunes, leurs enfants dans les mouvements de jeunesse, et c'est bien qu'ils sachent et qu'ils connaissent en fait les noms de ceux qui vous aident beaucoup et qui sont avec vous dans ce collectif, parce que ça les rassure aussi de savoir que ce sont pas seulement des endroits où les enfants s'amusent, et on va leur transmettre aussi des valeurs, et ça fait partie de ces valeurs que de se mobiliser pour une cause aussi importante.
Non, voilà. Tout à fait. Voilà. C'est vrai. Et moi-même, du coup, j'en découvre, puisque je ne suis pas militante de base ou peu rattachée. J'étais très intriguée.
C'est bien, hein. Ça, c'est encore plus... Non, mais je trouve ça encore plus méritant, en fait. Ah, alors, on me fait signe. Je suis désolée, Sophie. Après, je vais vous couper, mais on revient tout de suite derrière. On fait une toute petite pause publicité et on revient. Vous êtes sur Radio Shalom.
Découverte, partage, amour, bienveillance et respect, c'est tout ça l'esprit de Marc et Maggie.
Vous êtes sur Radio Shalom dans C'était pas prévu au programme et nous sommes toujours en compagnie de Sophie et de Victoria qui sont là pour nous parler entre autres du collectif 7 octobre et de beaucoup d'actions qu'elles mènent avec d'autres personnes, avec d'autres entités. Et nous étions donc, Sophie, en train de parler, nous étions arrêtés sur les mouvements de jeunesse qui étaient avec vous. Exactement. Sur toutes ces actions. Donc voilà, je vous laisse reprendre le fil de votre développement.
Merci. Bah, écoutez, très rapidement, effectivement, donc, je vous invite à aller voir le site, à voir ce que vous pouvez faire à votre échelle. Au-delà de ça, à nous suivre sur les réseaux, à rester à l'affût des informations qu'on poste, mais aussi de ces associations-là, de ces mouvements-là, puisqu'on multiplie en fait, en partenariat avec eux, et parfois à leur initiative, et même à l'initiative parfois d'individus civils, citoyens, des actions de rassemblement, des actions, donc là, on va avoir pas mal, il y a eu des cortèges, par exemple, un cortège de motards qui avait été organisé par Jonathan Béard, qui avait piloté la manifestation pour Sarah Halimi. Mm-hmm. On a eu la table
magnifique
Shabbat,
initiative.
Ouais. Exactement, dimanche dernier, qui visait à symboliser l'absence de ces otages. On a eu le rassemblement avec l'UEJF autour de l'UNESCO pour exiger la libération des otages. Donc voilà, c'est autant d'happening et de rassemblements qui ont eu lieu, qui vont continuer à avoir lieu. Et en plus de ça, on a une participation évidemment aux événements pilotés par les médias comme... maintenant.
D'accord, voilà. Ok. Alors, est-ce qu'il y a eu des résultats, évidemment, en 15 jours? Qu'est-ce qu'il y a eu comme... si vous me donnez quelques chiffres, par exemple, vous m'avez dit que vous aviez... Combien d'affiches vous avez collées je voudrais savoir juste un peu des chiffres pour que les gens se rendent compte, en fait, de l'utilité de vos actions. C'est important parce que les chiffres restent bien ancrés, en général, en tête. Vous n'êtes pas obligé de tout donner, mais allez-y, juste pour leur dire tout ce que vous avez fait en 2 semaines, parce que vous l'avez créé quand même il y a 2 semaines, ce comité, et je trouve qu'il est actif comme s'il existait depuis déjà... malheureusement, des années.
Oui, en fait, ça, c'est grâce vraiment à la mobilisation de tous les gens qui nous ont rejoints. Aujourd'hui, je pense qu'on a à peu près 350 volontaires bénévoles, donc impliqués à différents niveaux. Ça représente, en l'espace de 2 semaines, environ 10 000 affiches collées partout en France. On a eu 3 000 visiteurs sur le site, quand même, en l'espace de deux semaines.
C'est bien,
record.
Bravo. Hein.
Et puis, donc là, on est en train de mettre en place des référents pour les actions collage par zone géographique. Voilà, mais je préfère rester discrète quand même.
Non, mais vous avez raison, il ne faut pas tout dévoiler. Alors, à la fin de l'émission, je vous donnerai le numéro de téléphone, évidemment, de Radio Shalom pour les personnes qui souhaiteraient rejoindre justement ce collectif, parce qu'elles et ils vont avoir besoin de monde, parce qu'il va falloir les libérer, ces otages. Donc, il va falloir faire beaucoup d'actions encore. Donc, je vous laisserai un numéro de téléphone, vous appellerez, vous donnerez votre nom et votre numéro de téléphone. Et ensuite, ce sera nous, Radio Shalom, qui vous mettrons en relation directe avec Sophie ou avec Victoria. Alors maintenant, Victoria, moi, je voulais me tourner un petit peu vers vous par rapport à tout ce qui est action et sécurité en France, notamment dans les écoles, puisque vous êtes maman. Vous allez nous dire un petit peu comment. Ben oui, mais c'est important parce qu'on se fait beaucoup de soucis, les mamans.
Bien sûr. Alors, c'est un peu comme Sophie, on ne pourra pas tout dire pour des questions de sécurité et de protocoles qui doivent rester... confidentiel pour assurer justement qu'il fonctionne. Oui. Je reviens juste une seconde sur la partie associative. Oui. Pour être assez active dans tout ce milieu maintenant associatif de donateurs, de levée de fonds, etc., il y a quand même deux messages importants que j'aimerais faire passer aujourd'hui. Le premier, c'est que dès que ça entraîne de la logistique et des flux financiers, il faut passer auprès des grandes associations qui sont connues en France ou en Israël, le Fonds social unifié, bien sûr, le Keren Hayesod. Il y en a quand même ça, plusieurs, qui donnent justement une structure sécuritaire pour justement les personnes qui veulent donner de l'argent ou qui veulent envoyer de la marchandise, sachant qu'on a eu un gros problème sur la marchandise et toutes ces collègues qu'on a vues, dont on sait que la majeure partie a été bloquée ensuite en Israël à la douane.
Ça, donc, c'est malheureux, mais c'est vrai.
C'est ça. Donc, il ne faut pas jouer les héros dans des moments comme ça. Il faut être organisé, structuré, il faut être uni. Et il y a des gens qui savent le faire et qui ont les moyens logistiques de le faire. Puis la deuxième chose, des messages qui nous ont été passés par beaucoup de présidents associatifs, c'est que cette guerre va être longue et que donc, nous, en tout cas juifs de diaspora, on ne rentre pas dans un sprint, on rentre dans un marathon. Donc il va falloir qu'on inscrive nos actions dans la durée aussi pour éviter un effet de démobilisation et pour éviter que tout ce qu'on a pu entreprendre la première semaine ou les 15 premiers jours s'arrête, alors que sur le terrain, ils ont encore besoin de nous, et ici, on a encore besoin de nous. Sur la sécurité, on sait que les lieux de culte et nos institutions communautaires, voire nos écoles, sont menacés. Ça, c'est pas
nouveau.
Secret. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La seule réponse, et c'est aussi un message pour aujourd'hui, c'est la mobilisation. On doit tous considérer qu'on est en guerre, pas uniquement en Israël, ici aussi, et que donc, on doit être dans l'action. Moi, les gens un peu larmoyants, que je vois à l'école ou autre, qui envoient plein de messages très inquiétants sur nos réseaux, mais qui derrière ne savent pas se mobiliser, c'est pas ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, moi, je pensais que j'étais une personne qui avait le temps de rien, en plus de ce que je faisais déjà. Le temps, je l'ai trouvé. La logistique pour les enfants, je l'ai trouvé, avec mon mari aussi, qui est aussi très impliqué et très militant. Ça a un impact sur le boulot, c'est un impact sur la famille, c'est un impact sur le temps qu'on y passe avec eux.
Mais c'est nécessaire.
C'est nécessaire quand la nuit, on va coller et qu'on est dans des choses qu'on ne pensait pas faire. Surtout, moi, arrivé à mon stade de vie, je ne pensais plus que j'allais coller dans les rues la nuit.
C'est vrai.
Mais voilà, on peut tous faire des choses. Il faut se rapprocher de nos synagogues, il faut se rapprocher de nos écoles, il faut se rapprocher de nos associations, parce que ce que je ne peux pas dire ici, eux pourront le dire en off, évidemment, et les rattacher à des actions très concrètes que je mène, moi, personnellement, notamment, avec mon mari et avec d'autres personnes. Voilà.
D'accord. Alors maintenant, je voudrais connaître, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais c'est très important de mettre ça, d'en parler en tout cas. Je voudrais votre sentiment à toutes les deux. Aujourd'hui, voilà, on est à 2 semaines, cette guerre a commencé il y a 2 semaines. Votre sentiment, Victoria et Sophie?
Je démarre. Il y a un sentiment, et je l'exprime vraiment au nom de beaucoup de juifs au profil très différent, religieux, pas religieux, laïcs, sionistes, beaucoup moins sionistes, de solitude profonde. Et je pense que c'est mondial, je pense qu'il faut dénoncer ce manque de soutien, voir les dénonciations anti-Israël qui viennent des artistes, de certaines classes politiques. On ne sent pas un bloc autour de la communauté juive, on a l'impression que cette guerre, c'est un problème juif, c'est un combat juif. Et on a oublié l'ennemi commun, alors que le Bataclan, Charlie, Arras, c'est un ennemi commun qui est le terrorisme. Et penser que ce qui s'est passé le 7 octobre ne concerne que Israël et les Juifs, c'est déjà un des premiers problèmes. Parce que dans nos actions, nous-mêmes, on est limités. C'est-à-dire qu'il y a eu des actions, notamment grâce à M. Estrosi, le maire de Nice.
Oui.
Ça a été très difficile de faire ça.
Oui.
Et c'est le seul, qui a accepté. Alors que la libération des otages devrait être un message commun de bon sens.
Tout voilà. à fait. Et international, et ça,
c'est
presque.
Exactement. Et ça, c'est plus acceptable.
Ouais.
C'est plus acceptable.
Ouais, c'est vrai. Vous passez beaucoup de temps toutes les deux sur les réseaux, j'imagine.
Oui, hein, malheureusement.
Et comment et vos sentiments là-dessus? Parce que vous avez dû voir beaucoup de choses qui vous ont énervé, Sophie.
Oui, qui m'atteignent vraiment droit au cœur.
Ouais. C'est difficile hein, de réagir ou de ne pas réagir, justement.
Très dur. Je vous avoue que même pour ma part, j'ai dû faire, on va dire, un tri dans mes contacts.
Hein, oui.
Voilà. Effectivement, mais je pense qu'il faut... Du mieux qu'on peut, évidemment, hein, puisque ça vient avec un certain poids, certaines charges émotionnelles, combattre l'idéologie mortifère qui se répand sur les réseaux sociaux et qui est alimentée beaucoup par des médias dont on ne connaît pas les financements, on ne connaît pas l'organisation. Certains, d'ailleurs, ne se cachent même pas d'être financés par d'autres pays voilà, qui sont ennemis d'Israël et ennemis des Juifs. Et pour autant, ils ont... toute une audience qui se compte en millions d'auditeurs. Donc, c'est vrai qu'on a un vrai combat là-dessus. Et il rejoint aussi le combat de la rationalisation morbide qu'on peut entendre, de mettre en équivalence ou en correspondance le nombre de vies ou les attaques du Hamas versus la défense d'Israël.
Quoi. Avec des lignes éditoriales vraiment à deux vitesses. C'est-à-dire que le sentiment qu'aujourd'hui, on a une obsession du cessez-le-feu qu'on voit partout, et non plus de la libération des otages. Et nous, on est là parce que, au-delà de nos velléités politiques, on veut défendre des messages presque de droit commun, juste du bon sens pour notre humanité, notre civilisation, et c'est ça qu'on est venu porter aujourd'hui.
Républicain et humaniste, oui.
Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous remercie toutes les deux d'être venues. C'est un premier contact. Vous allez revenir quand vous voulez. Non, vraiment, parce que c'est important. C'est important pour les auditeurs aussi de voir l'évolution de votre travail. Donc, je rappelle que vous pouvez, si vous avez envie de vous joindre à ce comité ou à d'autres choses, mais en tout cas à ce comité qui est quand même très généraliste et qui est très, très bien et que vous pouvez les aider, vous appelez Radio Shalom au 01 43 36 04 06. Vous laissez votre nom, votre numéro de téléphone à notre charmant Arnaud que j'embrasse et que je remercie d'avoir gratté une petite minute en plus. Et nous nous chargerons, bien évidemment, de transmettre vos coordonnées à Victoria et à Sophie. Et elles vous rappelleront et vous pourrez aviser ensuite avec elles et ce que vous pouvez donner pour ce comité 7 octobre. Je vous remercie toutes les deux d'être venues. Et vraiment, je suis sincère, vous revenez quand vous voulez. On reste en contact et vous viendrez nous raconter tout ce que vous avez fait. Ce soir, Marc Scalia sera là, j'espère. En tout cas, je lui fais un gros bisou. Et en attendant, c'est le journal de... Pierre Gandus.
Le Centre d'art et de culture et le FSJU, c'est aussi le Festival de cinéma Diasporama et le Festival Jazz & Klezmer. Toute notre programmation est sur le site culture-juive.fr.